Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional, Daniel Bullia, président de l'Inter-Beaujolais, dresse pour nous le bilan de l'année 2021. Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Et enfin, inauguration du belvédère du sentier de la forêt des expériences à Chambon-Allières. Calade, le journal. Le journaliste Geoffrey Le Guilcher a passé 2 mois dans la peau d'un boucher d'abattoir. Son livre « Steak Machine » paru en 2017 raconte cette immersion clandestine au cœur d'une usine bretonne. Il démontre que les conditions de travail déplorables provoquent la souffrance animale. Article de Lorraine Lavocat pour Reporter. L'immersion me paraissait le meilleur moyen de tout vivre, à fond. De partager le quotidien des ouvriers, explique-t-il à Reporter, et de comprendre ce chiffre aberrant. Une mise à mort sur 5 est ratée. 20% des bêtes sont mal étourdies ou mal saignées. Depuis la diffusion des vidéos de L214, la question de la maltraitance animale s'est retrouvée sur le devant de la scène médiatique et politique. Mais très peu de personnes se sont penchées sur les hommes et les femmes qui tiennent les couteaux, observe Geoffroy Le Guilcher. J'ai donc voulu aller voir si ces usines à viande ont enfanté des hommes monstres, aller tenir le couteau avec eux et raconter ces mains qui assomment, tuent et découpent des êtres sensibles toute la journée. Le journaliste choisit un abattoir breton auquel il donne le doux nom de Mercure, afin de préserver l'anonymat des personnes rencontrées. Une entreprise industrielle qui génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et abat quotidiennement 600 bœufs et 8500 porcs. Dès les premiers jours, il découvre des conditions de travail déplorables. Les giclées de sang, le bruit assourdissant, les odeurs écœurantes, le doigt qui se bloque, le dos qui se raidit. Les habitants de Mercure ont muté, musculature hors norme au niveau des avant-bras, poignets et mains. Je les appelle des hommes crabes, raconte-t-il. Ils dévoilent un univers impitoyable, viril et taiseux, où les patrons font la loi, un lieu qui crée des handicapés. 90% des salariés souffrent de troubles musculo-squelettiques. Pour tenir la journée et chasser les cauchemars la nuit, les ouvriers recourent régulièrement à des anxiolytiques, des calmants ou des drogues en tout genre. Où est l'homme? Où est la bête? La bête humaine. Un Beaujolais plutôt en bonne santé avec l'annonce de chiffres de sortie record. Daniel Bullia, président de l'Inter Beaujolais, dresse pour nous le bilan de l'année 2021 lors de l'Assemblée Générale récente de l'Inter Beaujolais. De préoccupations majeures ont fait l'objet de discussions, la transition écologique et la transmission des exploitations, due au départ en retraite nombreux des vignerons sur le territoire. Avec nous, Daniel Bullia. Un Beaujolais en bonne santé selon son président.
Le Beaujolais va plutôt bien parce qu'on a fait notre assemblée générale la semaine dernière et on a annoncé des chiffres de sortie qui ont battu tous les records des 5 dernières années puisqu'on a vendu 694 000 hectos de vin sur 12 mois. Donc c'est plutôt c'est une bonne performance. Alors le gel et la récolte 2021, on peut dire qu'on va produire, on n'a pas les chiffres vraiment précis à l'hecto près, mais entre 480 000 et 500 000 hectos. Donc c'est pas si catastrophique que ça par rapport à ce qu'on aurait pu espérer il y a encore six mois avant la récolte quoi. Mais par contre c'est pas assez par rapport à la demande qu'on a aujourd'hui quoi. Donc on espère une récolte 2022 bien parce que ça serait, on en a vraiment besoin.
Les perspectives climatiques.
Dame Nature, elle est toujours malheureusement imprévisible. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a plutôt de l'hiver, on a eu du froid et du gel. Ça, c'est plutôt bien, parce que ça retarde le départ en végétation. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une récolte de 2022, une récolte qualitative et quantitative. Si le 2018, ça serait bien.
Les points abordés.
Je suis toujours président, et en fait, les points qu'on a abordés, c'est surtout aujourd'hui la transmission des exploitations, parce qu'on sait que 50% des exploitations vont changer de main dans les 10 ans. Et on a un appel aux jeunes ou aux moins jeunes de venir s'installer dans le vignoble.
Des projets sont nés quand même, je crois.
Oui, il y a des choses qui sont en place. Mais pour installer un vigneron, ça prend du temps, c'est quand même beaucoup d'argent. Et avant de devenir un vigneron, il faut au moins 5 ans. Hein. Donc c'est un travail de longue haleine. Quoi. Donc les transmissions, ça se prépare. Quoi. Donc ça c'est pas en 2 minutes. Quoi.
C'est un appel à la jeunesse. Hein.
Appel à la jeunesse, c'est exactement ce que j'ai dit à l'Assemblée Générale.
Oui.
Voilà. La transmission des exploitations, continuer à faire de la qualité, de la montée en gamme dans notre stratégie de l'Inter Beaujolais. Donc le meilleur gamet du monde en fait partie, parce que c'est un vin d'exception et de haute gamme et de qualité. Quoi. Donc voilà, ça c'est toute la stratégie qui est en place.
La surprise du dégelé, là.
Ah, dégelé comme 2021. Oui, C'est, oui, non, mais c'est surtout lié, ce que j'ai dit tout le temps, depuis tout le temps, c'est que c'est surtout lié à, à un débourrement plus précoce qui va devenir récurrent lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire, plus la ville pousse tôt, plus elle a le chance de geler, quoi. Donc ça va se répéter, malheureusement. Donc c'est un vrai souci, quoi. Donc c'est parce que quand on la vigne, avant, quand on était dans un réchauffement plus faible, la vigne ne poussait jamais avant le 15 avril. Parce que là, elle pousse des fois le 15 mars, le 20 mars ou le 25 mars. Voilà. C'est la précocité qui fait qu'on en a plus que de risque de gel. Ça, donc, c'est hyper important à savoir, quoi. Il faut le dire. Quoi.
Il faut anticiper et essayer de...
Bah, la meilleure chose que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez faire pour retarder un peu le départ en végétation, c'est de tailler un peu plus tard. Donc si vous taillez en mars, ça permet de reculer d'une semaine le départ en végétation. Voilà. En fait, on n'a pas tellement de possibilités.
Ouais.
Après, si on est obligé de rentrer dans le système de lutte, c'est très onéreux, quoi. S'il faut mettre des chaufferettes, ça coûte très très cher.
C'était Daniel Bullia, président de l'Inter-Beaujolais, à l'occasion de l'Assemblée Générale récente de l'Inter-Beaujolais. Citéo Entreprise, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, met à disposition des collectivités locales des mesures d'accompagnement spécifiques destinées à soutenir les initiatives en faveur de l'augmentation de la performance du recyclage dans des conditions respectueuses de l'environnement. Thomas Fluzin, responsable territorial chez Citeo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, intervient auprès du syndicat mixte Beaujolais-Dombes. C'est à l'occasion du lancement de l'extension des consignes de tri que nous l'avons rencontré.
Alors Citeo, c'est une entreprise qui a pour mission de réduire l'impact environnemental des emballages de ses clients. On va accompagner les entreprises sur la réduction en fait, du poids, du nombre de leurs emballages, les accompagner sur la recyclabilité de leurs emballages, et puis on va développer la collecte sélective des emballages en partenariat avec les collectivités locales, notamment, par exemple, comme aujourd'hui, en simplifiant le geste de tri de l'habitant. En fait, les entreprises qui mettent sur le marché les emballages ont une obligation, c'est de pourvoir à l'élimination, à la valorisation de ces emballages. Et donc, elles ont créé Citeo. Elles financent tous les ans à hauteur de 800 millions d'euros Citeo. Et Citeo, avec ce financement, vient développer, en partenariat avec les collectivités locales, tout le dispositif de tri et de recyclage. Sur le terrain, ce sont vraiment les collectivités locales et Citeo finance un bac de collecte, finance le camion, finance la communication, le travail des ambassadeurs pour voilà, développer le tri et le recyclage des emballages et des papiers.
Donc un recyclage plastique, carton, papier, verre.
Et oui, dans le bac de tri, on met tous les emballages et les papiers, sauf sur certains secteurs où les papiers se trient à part. Mais dans le bac jaune, maintenant, vous pouvez mettre tous vos emballages. Tous les emballages en plastique, les bouteilles, mais également les barquettes, les pots de yaourt. Tous les emballages en carton, les petits emballages en carton, les gros emballages en carton et allant plutôt en déchetterie. Et puis tous les emballages en métal, l'aluminium, les canettes, les boîtes de conserve.
Aujourd'hui, un véritable défi, on le sait, avec la multiplication effectivement des déchets.
Oui, aujourd'hui, on est confronté à effectivement depuis plusieurs années à une explosion des déchets. Une des solutions, c'est le tri et le recyclage pour éviter que ces déchets se retrouvent dans la poubelle grise et donc enfouis ou incinérés. Demain, il va falloir inventer des nouvelles façons de consommer, vraisemblablement, et donc on travaille d'ores et déjà sur des solutions autour du réemploi et du vrac pour réduire la production de déchets.
Alors, est-ce qu'on peut déjà entrevoir nos différents modes façons de consommer
dans les prochaines années, déjà, recycler un maximum. Dès qu'on a un emballage, dès qu'on a un déchet, il faut qu'il y ait une solution de recyclage, de valorisation de ces déchets. Et puis, bien évidemment, réduire à la source. Ça, c'est la priorité. Donc, se poser la question, quand on achète un produit, est-ce que vraiment ce produit est nécessaire? Est-ce qu'il y a une alternative? On peut louer les produits, on peut échanger des produits. Et puis, sur la partie des emballages, eh bien, effectivement, développer le réemploi, le vrac, amener son propre contenant, par exemple, au magasin, quand on va acheter de la viande ou du fromage. Et puis, au niveau de la restauration, eh bien, passer du jetable, de l'emballage unique, à l'emballage réemployable, avec, par exemple, des contenants en verre qui peuvent être réutilisés plusieurs fois.
Les déchets, c'est aussi une source d'emploi.
Oui, les déchets, en France, ça crée 30 000 emplois directs. Et on le voit sur le territoire du site Réval, ce sont des emplois déjà pour les opérations de collecte des déchets, les opérations de tri. Dans les centres de tri, vous avez 40, 50 personnes qui font fonctionner le centre de tri et qui sont présents également sur les chaînes de tri, une usine d'incinération également. Donc voilà, donc effectivement, autour de ces activités de tri, de valorisation, il y a de la création et c'est de l'emploi et c'est de l'emploi local.
Vous l'avez dit tout à l'heure, réduire les déchets, c'est d'abord effectivement de gérer mieux sa consommation et la multiplication effectivement aujourd'hui peut-être du vrac, enfin d'autres méthodes qui arrivent petit à petit doucement mais qui vont arriver. On en parlait tout à l'heure aussi de la reprise des consignes en ce qui concerne le verre. Tout ça est envisagé, je crois.
Oui, finalement, on sent qu'on revient un peu aux fondamentaux finalement. On est peut-être allé un petit peu loin dans les déchets, dans l'emballage unique. On est dans une société d'hyperconsommation. Je pense que les prochaines années verront se développer peut-être des modes de consommation un peu plus vertueux. On sent qu'on a atteint quand même une limite. Et le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique nous y oblige. Et donc, il va falloir qu'on adopte effectivement de nouvelles façons de consommer. Et voilà, le réemploi, le vrac en sont. Aujourd'hui, c'est encore un peu balbutiant. Et donc la volonté de Citeo, c'est d'investir sur ces nouvelles façons de consommer pour que chacun, où qu'il soit, et pas simplement en ville, ait une possibilité de réduire sa production de déchets en utilisant effectivement, par exemple, des emballages réutilisables.
C'était Thomas Fluzin, responsable territorial chez Citeo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il intervenait à l'occasion du lancement de l'extension des consignes de tri du Citreval, le syndicat mixte d'élimination de traitement et de valorisation des déchets Beaujolais d'Ombe. La suite de l'info avec Valérie Blais.
Inauguration ce mardi 1er février du Belvédère sur le sentier de la Cantinière avec le président du département du Rhône, Christophe Guillotot, Madame Colette Darfin, vice-présidente agriculture et Monsieur Christian Vivier-Merle pour les forêts, les maires des communes de Rivolet où se situe une grande partie du sentier et aussi des communes alentours, les partenaires comme l'Office national des forêts et les maisons familiales et rurales, les entreprises locales Chopin et Gonachon ayant contribué à cet ouvrage remarquable en bois, extrait des discours de Monsieur Guillotot et de Colette Darfin, après l'ascension un peu périlleuse en forêt ce matin-là, jusqu'à la passerelle pour couper le ruban.
Là, vous êtes sur la commune de Rivolet et dans une forêt départementale, avec une idée départementale, mais avec la conjugaison des uns et des autres. En tout cas, avec Colette Darfin qui, elle, va compléter sur la façon.
Merci à tous de votre présence déjà, d'avoir affronté les éléments. Oui. Vous parlez de la passerelle.
Là, le belvédère, c'était le... Voilà, ça boucle la boucle.
Ouais, ça boucle. C'est un peu remarquable en même temps. On peut pas
Oui. Voilà. Non, et puis bon, je pense que c'est bien pour le département d'ouvrir les forêts au public, enfin un petit bout de forêt. Ça coïncidait avec le départ de l'épisode Covid et les gens se sont vraiment...
Un appel d'air.
Voilà, ça a vraiment été un appel d'air, oui. Alors avec les difficultés qu'on a connues, comme disait le président tout à l'heure, le parking, les accès, etc., il a fallu aller un peu vite pour essayer de trouver des solutions pour pallier à cet afflux de monde. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, ça se régule. Il y aura peut-être des week-ends peut-être un peu plus d'affluence.
Je vois qu'on a un ancien de la vallée qui pourrait nous parler de la forêt beaucoup plus que nous, François Chavant.
François Chavant, j'étais conseiller général du canton de Lamure, qui a été supprimé. Et j'ai donc été l'élu de ce canton pendant 25 ans.
Et vous avez été invité aujourd'hui
J'étais invité aujourd'hui à cette manifestation parce que j'avais aussi, parmi mes nombreuses charges, celle du patrimoine forestier.
D'accord.
Départemental.
Et donc, ce dont vous témoignez tout à l'heure, forcément, la forêt a évolué, les choses ont changé.
La forêt a évolué, oui, elle a gagné sur l'agriculture, parce que le hameau de la Cantinière, qui était le plus gros hameau de la commune de Chamboilières, était essentiellement composé d'agriculteurs. Et ces agriculteurs ont vendu leur terrain au département. Et ceci a eu pour effet heureux d'employer sur place leurs enfants. Mais c'était la première génération de forestiers. Maintenant, eh bien, la forêt est plus ou moins entretenue, mais elle est entretenue par des entreprises. Et il n'y a plus de personnel forestier qui s'adonnait à longueur d'année aux plantations et à l'entretien du domaine forestier.
On en parlait un petit peu là avec l'ONF en montant, qu'effectivement sur les parcelles privées, on observe encore des coupes rases franchement alarmantes.
Oui.
Et sur ce type de projet, de sentier, quel est votre sentiment?
Ça permet aux villageois de découvrir un domaine qui leur appartient. Et ça permet aussi de découvrir la haute vallée de la Zergue. avec son vallonnement et ses forêts, mais aussi ses villages qui se développent d'ailleurs.
En vue, oui, c'est ce que vous disiez.
Le col des Écharmeaux, le col de la Cambuse, le village de Grand-Ry, l'hôpital de Grand-Ry.
Une belle forêt départementale, la cantinière que le département a voulu ouvrir au public à travers ce projet de sentier de la forêt des expériences, à la fois artistique et pédagogique. Le sentier sur 3,5 km de randonnée se dote ici d'un nouvel aménagement remarquable et à mi-parcours, un belvédère en bois de 16 mètres de long réalisé en circuit court, offrant un cadre exceptionnel sur le panorama de ce coin de la Zergue.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.